Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Immo.
Et oui, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, on est ravis d'être avec vous pour ce vendredi 12 avril. On commence la journée ensemble et c'est vrai que bon, ça pique un peu, mais ce soir c'est le week-end. Enfin, bon courage quand même à ceux qui travaillent. Bon, on est ensemble jusqu'à 9h30. Erwan Lemercier, bonjour.
Bonjour Bérénice, bonjour à tous.
Comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Eh bien, en pleine forme. Bon, pendant 45 minutes, on va parler de toute l'actualité immobilière. Ça vous concerne, hein, que vous soyez locataire, propriétaire, ça vous concerne aussi si vous avez envie de devenir propriétaire, puisqu'on va parler justement des taux, on va parler de l'actualité, on va parler des SCPI aussi si vous voulez investir dans la pierre. On découvrira aussi ce que c'est que l'immobilier fractionné. C'est une nouvelle tendance, voilà, on voit fleurir pas mal de solutions qui proposent ce type d'investissement, donc on va le découvrir. On découvrira aussi une start-up IMO grâce à Jean-Michel Royot. Aujourd'hui, c'est Urban Campus. Et puis, on parlera aussi des piscines parce qu'il commence à faire beau et chaud. Voilà, donc peut-être que vous avez envie de construire une piscine dans votre jardin. Attention, parce qu'il y a la fiscalité qui suit derrière. Et puis, à 8h45, je recevrai pas une, mais deux invités, deux sœurs, Sophie et Valérie Ingels. Alors, vous les avez peut-être vues sur Instagram. Hein. Elles sont connues pour partager leurs investissements immobiliers, mais pas que. Elles ont aussi un centre de formation et une agence immobilière. Voilà, on les accueillera à 8h45. C'est parti pour le Mac de l'Immo.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
Et Erwan, pour bien commencer cette émission, pour se mettre en jambe, un petit échauffement, on commence avec votre revue de presse qui commence par la bonne nouvelle de la semaine. Les conditions d'octroi des crédits immobiliers commencent enfin à s'assouplir, une première depuis 2021.
En effet, les banques de la zone euro ont assoupli leurs conditions d'octroi de prêts immobiliers au premier trimestre. De quoi donner enfin un peu de souffle hein, au marché du crédit immobilier et laisser espérer une prochaine baisse des taux par la Banque Centrale Européenne, puisque les derniers chiffres de l'inflation sont eux aussi en recul. Alors le pourcentage net des banques ayant desserré leurs critères s'élève à 6%, contre 2% qui les avaient resserrés au dernier trimestre 2023, selon une étude basée sur un questionnaire adressé à 157 établissements. Pour les prêts aux entreprises, les conditions d'octroi du crédit, elles ont connu un nouveau durcissement. Ce dernier est toutefois léger et beaucoup moins important que ce qui était anticipé par les banques. Qui plus est, pour le deuxième trimestre, les banques attendent un resserrement net modéré des conditions de prêts aux entreprises et à des conditions d'octroi inchangées pour les prêts aux ménages, aussi bien dans le domaine de l'immobilier que de la consommation.
Alors une baisse qui a également des répercussions en France.
En effet, puisque le taux moyen des crédits immobiliers hors frais et assurances a baissé en février pour la première fois en deux ans à 4,11% selon les données publiées la veille par la Banque de France. Pour la première fois depuis début 2022, le taux d'intérêt moyen hors frais et assurance des nouveaux crédits à l'habitat, hors renégociation bien sûr, est en repli de 6 points de base, passant de 4,11% après 4,17%. Alors du côté du gouvernement, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu souhaite relancer un marché de l'immobilier qui est en chute libre, un but également partagé par la Banque de France, mais les deux entités divergent sur les moyens d'y parvenir. Le ministre, lui, souhaite relancer des prêts remboursables à l'échéance, qui dissocient un peu le paiement justement des intérêts et le remboursement du capital, qui est très peu commercialisé par les banques, alors que la Banque de France table plutôt sur une stabilisation, voire une baisse des prix. Donc en plus de tous ces signaux verts et de l'inflation en recul, qui se rapproche même en mars des 2,4%, ce qui est aussi très proche de l'objectif de la BCE, qui était fixé initialement à 2%, les marchés espèrent aussi un allègement de la politique monétaire dans les prochains mois. Une politique qui a mis en difficulté les ménages hein, qui souhaitaient emprunter pour acquérir un logement, mettant sous tension le marché dans de nombreuses villes européennes et freinant l'activité économique des entreprises et du secteur de l'immobilier. Pour l'instant, la BCE veut s'assurer que l'inflation est en bonne voie pour revenir à l'objectif de 2% avant de commencer à desserrer les taux monétaires, une perspective qu'elle laisse planer pour juin selon les déclarations concordantes de plusieurs ténors de la banque.
Alors, selon plusieurs réseaux d'agences, les prix de l'immobilier dans l'ancien ont continué de baisser au premier trimestre. Cependant, ils constatent également un début de reprise provoqué par des crédits un peu moins coûteux, comme nous l'avons évoqué à l'instant.
Selon Orpi, au premier trimestre, les prix au mètre carré dans l'ensemble du pays ont reculé de 3% sur un an. Pour la forêt, un recul de 4,7%. Et d'après Century 21, il est de 3,2% pour les appartements et 3,3% pour les maisons. Un changement de prix qui n'a pas encore enrayé le repli des ventes, hein, puisque le nombre de transactions a lui aussi reculé par rapport à début 2023 de 11,2% chez Century 21 et de 19% chez Orpi. La faute, dans la grande partie des cas, au taux de crédit, toujours proche de 4% après avoir flambé à partir de 2021, et ce, malgré une légère baisse ces dernières semaines. Mais bonne nouvelle, selon Guillaume Martineau, le président d'Orpi, janvier et février ont été extrêmement difficiles. Mars est beaucoup plus souriant, on commence enfin à avoir les données qui remontent et le moral revient. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré en conférence de presse. La forêt note également que par rapport au dernier trimestre 2023, le nombre de transactions a progressé de 0,5%, notamment porté par l'Île-de-France et surtout Paris. De son côté, Century 21 constate que les démarches en vue d'acquérir un bien, les consultations d'annonces, les demandes d'informations aux agences étaient toutes devenues plus fréquentes et les prix se sont alignés, ils ont baissé. On retrouve une forme d'alignement des planètes qui nous rend enthousiastes pour les mois qui viennent, a déclaré à l'AFP le président de Century 21 France, Charles Marinakis. Nuance cependant, puisque Century 21 observe d'importantes disparités en fonction des territoires. Les prix ont ainsi chuté de 12,1% en Pays de la Loire, tandis qu'ils ont progressé de 4,4% en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec un éventail de situations bien évidemment intermédiaires. Les grandes villes côtières, toujours très prisées, sont très représentées parmi celles où le marché continue de grimper. Et quant au marché de la location, il est toujours aussi tendu, puisque beaucoup de ménages restent locataires, faute de pouvoir accéder à la propriété.
Et on termine avec une petite ville du Cher qui a récemment mis en vente une maison pour la somme de 1 euro, Erwan.
Tout à fait, un rêve, devenir propriétaire pour 1 euro. Mais derrière cette opération se cache un but bien précis. Bérénice, est-ce que vous savez où est située la ville de Saint-Amand-Montrond ?
Dans le Cher ?
Tout à fait, mais plus précisément ?
Dans le Cher.
Eh bien, voici l'objectif, favoriser la rénovation des maisons du centre-ville et surtout attirer des nouveaux habitants dans le Cher, qui plus est à Saint-Amand-Montrond. Et ce n'est pas la première fois, puisque la ville avait déjà fait une première opération similaire en 2021. Un prix symbolique donc d'un euro qui s'inscrit dans le cadre d'une opération de revitalisation du territoire qui a été lancée fin 2020 par la ville où il y a moins de 10 000 habitants. Un appel à candidature a été lancé le 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, on le précise. Et il y a actuellement 67 personnes qui ont déjà manifesté leur intérêt pour cette maison située dans le centre-ville, mais son véritable prix se situerait plutôt aux alentours de 30 000 euros. Concernant la description du bien à 1 euro que vous attendez tous, le voici. L'habitat d'environ 77 mètres carrés, réparti sur deux niveaux, une cuisine, une pièce de vie et des toilettes au rez-de-chaussée, ainsi que deux chambres et une salle de bain à l'étage. Un bien qui dispose également d'une cour d'environ 13 mètres carrés et d'un garage de 16 mètres carrés. Alors s'il vous faudra débourser 1 euro seulement pour acquérir cette habitation, les frais de notaire sont de leur côté estimé à 2500 euros. Surtout, l'achat de cette maison est conditionné à la réalisation de travaux estimés cette fois-ci à 127 800 euros s'ils sont intégralement effectués par des entreprises du bâtiment. Ces travaux doivent répondre à un cahier des charges et à un calendrier prédéterminé par la collectivité. Des mises aux normes sont attendues, toute l'isolation et l'électricité étant notamment à refaire. La municipalité s'engage à accompagner le ou les futurs propriétaires dans ces démarches avec des subventions non négligeables à la clé. Un chantier qui devrait commencer en mai 2025, soit 5 mois après la signature de l'acte de vente.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System. Promis, t'es bien ici.
De retour dans le Mac de l'Immo. Allez, bon courage. Si vous êtes en week-end ce soir, c'est le dernier jour de la semaine.
Bon courage aussi du côté de l'Espagne qui réagit doucement à la crise du logement qui la touche.
Et oui, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré que le programme dit du visa doré allait être supprimé. Il a été mis en place en 2013. C'est un dispositif qui accorde un permis de résidence et de travail de 3 ans aux investisseurs non européens et à leurs familles pour l'achat d'une propriété dans le pays d'une valeur égale ou supérieure à 500 000 euros. Par sa suppression, le gouvernement espagnol veut faire de l'accès à un logement abordable un droit et non plus une activité spéculative. Selon le chef du gouvernement, aujourd'hui, 94 visas sur 100 sont liés à l'investissement immobilier dans les grandes villes où le marché est très tendu et où il est presque impossible de trouver un logement décent pour ceux qui y vivent, y travaillent et y payent leurs impôts. La procédure de suppression sera lancée mardi prochain lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, après avoir examiné un rapport présenté par le ministère du Logement.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
Et oui, de retour dans le Mac de l'Immo. On est ensemble jusqu'à 9h30. Oh là, oui, 9h30, à 8h45. Valérie. Et ouais, c'est ça, c'est le matin là, c'est compliqué, ça pique. Valérie et Sophie Engel seront avec nous. C'est deux sœurs qui investissent dans l'immobilier, qui partagent leur vie sur Instagram. C'est les Saving Sisters, mais elles ont aussi un centre de formation et une agence immobilière. Elles seront donc avec nous à 8h45.
Mais avant tout, on va écouter votre interview d'Edouard Durier, le vice-président chargé de l'économie de l'AFFB, la Fédération française du bâtiment Grand Paris, Île-de-France, Bérénice.
Édouard Durier, bonjour. Vous êtes le vice-président chargé de l'économie de la FFB, la Fédération française du bâtiment Grand Paris, Île-de-France. Merci d'accepter cette interview. Alors, on va parler de la conférence de presse qui s'est tenue la semaine dernière, avec comme titre un effondrement d'une œuvre qui ne se résorbe pas pour donc le bilan 2023. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ce qui s'est dit lors de cette conférence de presse ?
Oui, absolument. Ben, effectivement, nos chiffres, une fois de plus, descendent. On s'aperçoit que le marché du neuf ne redécolle pas. Il est même encore un petit peu en train de s'enfoncer. Les autorisations de chantier n'arrivent pas. Nous arrivons maintenant vraiment à la fin des chantiers, ce que j'appellerais les chantiers Covid, c'est-à-dire les chantiers qui ont été décalés à cause du Covid et dont les autorisations ont été données un petit peu plus tard, et donc qui ont pu démarrer en 2021, 2022 et même 2023, ce qui a permis d'avoir une activité, même si elle était en baisse, encore un tout petit peu soutenue sur certains secteurs. Mais maintenant, en 2024, on voit très bien que c'est en train de plonger. Il y a de moins en moins de chantiers qui se mettent en route. Et donc ça nous inquiète beaucoup, ouais, effectivement.
Oui, ce qui vous inquiète, en fait, c'est les autorisations de chantier donc qui ne sont pas là. Et donc, c'est pour les chantiers à venir, 2024, 2025, 2026, que je rappelle qu'il y a toujours un décalage, hein, à nos auditeurs.
Oui, parce qu'on est on est dans un métier où il y a de l'inertie, donc forcément le temps qu'il y ait l'autorisation de chantier, donc les mises en route d'appels d'offres, et puis ensuite la mise en route réelle du chantier, il y a quelques semaines voire quelques mois qui se passent. Ensuite, il faut évidemment réaliser le chantier. Là aussi, il y a encore plusieurs mois qui se passent. Et donc, tout ça, si une autorisation est donnée aujourd'hui, le temps que ça démarre et que ça se réalise, c'est plutôt 2025-2026, comme vous dites.
Alors, un chiffre aussi, donc, c'est concernant les défaillances d'entreprises qui sont à un niveau comparable à 2019, qui était une année record en Île-de-France pour la construction. Un petit commentaire là-dessus.
Oui, comme on le prévoyait, comme on l'annonce depuis plusieurs mois, ça ne faisait qu'augmenter. Et là, on se rapproche vraiment, enfin, on se rapproche, on atteint les niveaux de 2019, qui étaient, comme vous le disiez, une année record sur les défaillances. Ça veut bien dire que les entreprises manquent de volume, que les trésoreries sont à sec et que les entreprises qui sont défaillantes ne peuvent même plus soit demander un peu d'aide à leur banque, soit avoir des trésoreries qui leur permettent de compenser ce manque de volume et de passer une année qui s'annonce difficile. Donc il y a des gens qui préfèrent mettre la clé sous la porte.
Ah oui. Ouais. Et donc l'Île-de-France, par rapport au reste de la France, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Bah, ce qui est embêtant, c'est que le niveau de France est plus bas que le niveau national, que ce soit pour les mises en route de chantier, que ce soit pour les défaillances d'entreprise, plus haut en défaillances d'entreprise, plus bas en mise en route de chantier. C'est-à-dire que là, l'Île-de-France est à la traîne. Alors, c'est une région, normalement, encore une fois, très dynamique. C'est normalement la région la plus dynamique de France. Mais là, on voit très bien que la région souffre beaucoup.
Alors, Guillaume Kasbarian, le ministre du Logement, hein, délégué au logement, le nouveau ministre délégué au logement, a redit la semaine dernière devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale qu'il comptait relancer la construction. Il l'a redit le lendemain sur mon plateau à l'UNAM, l'Union des aménageurs nationales des aménageurs. Qu'est-ce que vous en pensez et selon vous, quels sont qu'est-ce que devrait faire le gouvernement pour relancer cette construction ? Est-ce que les propos tenus par les ministres du logement et de la transition écologique sont suffisants pour vous ?
Alors nous, d'abord, on est très contents qu'il y ait eu enfin une nomination de ministre et d'une équipe nouvelle pour essayer de discuter le logement avec le gouvernement. Ensuite, les annonces qu'il a faites semblent effectivement assez positives pour notre secteur, même si on sait très bien que là encore il va y avoir de l'inertie et que le temps de décider, de passer des décrets et de mettre en route tout ça va prendre un certain temps. Mais c'est plutôt positif. C'est quelqu'un qui a l'air tout à fait motivé et qui a l'air de nous écouter. Donc on a bon espoir. Maintenant, il faut, comme je le disais la dernière fois, il faut quand même que ça s'accélère. Il faut que les décisions soient prises rapidement. C'est trop long tout ça. Et comme on le disait là juste à l'instant, les défaillances d'entreprises sont trop nombreuses. Les emplois vont se perdre. Nous, la Fédération nationale annonce moins 300 000. Nous, on annonce 15 à 20 000 emplois en moins en Ile-de-France pour cette année. C'est inéluctable. Et bien que, paradoxalement, nous cherchions parfois de la main-d'œuvre qualifiée pour certaines opérations, on manque quand même, enfin, on va être obligé quand même de ne pas garder certains salariés ou de ne pas remplacer certains salariés qui partent à la retraite en attendant des jours meilleurs. Alors, ce qu'on voudrait, c'est de la simplification sur tout ce qui est mise en route de chantier, sur ce qui est la rénovation énergétique.
Ça, c'était promis par le gouvernement, par Gabriel Attal et par Guillaume Casbah.
Oui, il y a eu récemment une petite simplification dans la mesure où la rénovation énergétique, au lieu de faire une opération de rénovation globale, on peut maintenant faire une opération lot par lot, on va dire.
Par geste,
activité par activité, voilà, par geste. C'est plutôt pas mal. Maintenant, nous, on va demander la pérennisation, évidemment, sur les années qui viennent, parce que si c'est juste 2024, là encore, le temps de lancer un chantier, on va vite être à la fin de l'année. Donc, il faut, je pense, motiver les Français qui sont en perte de pouvoir d'achat et les Franciliens, dans notre cas, à quand même mettre en route quelques budgets pour accélérer la rénovation énergétique. Mais il y a aussi d'autres mesures qui sont c'est celles dont je parlais déjà la dernière fois.
Oui, attendu.
C'est la hausse des bâtiments, il faut multiplier ça. Ça se fait un petit peu, mais c'est pas suffisant, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de foncier dans Paris ou en banlieue proche, en zone dense. Donc, la hausse des bâtiments, c'est quelque chose qui peut être fait facilement et rapidement, sans avoir besoin de modifier tout le côté juridique du bâtiment. Si c'est des bureaux à transformer en logement, ça peut se faire aussi, mais c'est un peu plus technique et compliqué. Et puis les collectivités n'ont pas forcément les moyens de mettre les services autour. On sait bien quand c'est une zone de bureau. Donc voilà, mais je pense quand même qu'il faut accélérer tout ça. Je parlais l'autre jour, la dernière fois de défiscalisation, on est toujours là-dessus. Il faut pouvoir permettre, non pas d'aider directement, mais peut-être de mettre en place de la défiscalisation comme le Pinel. On pourrait vraiment mettre en place des choses très intéressantes et il faut les mettre rapidement parce que là, c'est un peu catastrophique.
Et dernière question, alors vous qui êtes chargé de l'économie, selon vous, en fait, qu'est-ce qui pose le plus problème, la crise de l'offre ou la crise de la demande? Parce qu'on a une double crise structurelle à ce stade. Selon vous, sur quoi faut agir, enfin sur les deux, mais en priorité?
La crise de la demande.
Ouais.
Ça manque d'opérations.
Ouais. Donc là, vous rejoignez les promoteurs, Pascal Boulanger, notamment le président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, qui cesse de répéter ça au gouvernement. Donc c'est vraiment sur la demande qu'il faut agir.
Oui, bien sûr, parce qu'on manque de logements, soit construits neufs, soit réhabilités pour les Franciliens. Point. On en construit 35 000, il en faut 70 000. On en rénove, à mon avis, pas suffisamment non plus. Donc voilà, il faut accélérer tout ça. C'est vraiment le mot d'ordre aujourd'hui, accélérer, de façon efficace, bien sûr.
Eh bien, merci beaucoup Édouard Durier, donc vice-président chargé de l'économie de la FFB Grand Paris Île-de-France, la Fédération française du bâtiment. Merci beaucoup.
Le Mac de l'Imo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
De retour dans le Mac de l'Imo et on va parler maintenant des SCPI. Alors, les SCPI, c'est les sociétés civiles de placement immobilier. Comment faire pour revendre ses parts? C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. Les médias en parlent beaucoup. C'est un peu un phénomène. Les investisseurs se précipitent pour revendre leurs parts. Alors, Erwan Lemercier, comment revendre ses parts d'une SCPI?
Alors tout d'abord, comme vous venez de le dire, la SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. Et comme l'explique Jérémy Chor, le directeur commercial de PrimeAlliance.com à nos confrères du Monde, la procédure pour se séparer de ses parts de société civile de placement immobilier, eh bien elle n'est pas la même s'il s'agit d'une SCPI à capital variable ou fixe. Premièrement, pour vendre des parts d'une SCPI détenue en direct, il faut directement s'adresser à la société de gestion. Or, pour une SCPI à capital variable, il suffit dans la majorité des cas d'envoyer un justificatif d'identité accompagné d'un relevé d'identité bancaire, un RIB donc. Pour le remboursement, la revente de ces parts peut se faire à tout moment. Par ailleurs, il ne faut pas oublier les délais, puisque le processus peut aussi bien prendre quelques jours comme quelques mois selon le contexte du marché, puisque les retraits sont compensés par la collecte. Alors si la SCPI est en phase de collecte, les parts seront revendues rapidement, souvent le mois suivant votre demande. Cependant, si la SCPI ne collecte pas assez, vous serez dans une file d'attente en attendant qu'elle collecte ou vende un bien immobilier. C'est donc ce processus qui peut prendre plusieurs mois pour les SCPI moins attractives. Côté prix, le prix de revente des parts correspondra au prix de retrait moins le prix de souscription actuel moins la commission de souscription. Il est donc de même pour tous les associés et il est déterminé par la société de gestion.
Et alors qu'en est-il pour une SCPI à capital fixe, Erwan ?
Eh bien là, le schéma est un peu plus complexe car ce n'est pas la société de gestion qui assure la vente. Dans ce cas, il faut passer par un carnet d'ordre qui recense les ordres d'achat et de vente qui ont généralement lieu une à deux fois par mois. L'historique de ce carnet vous donnera un aperçu des échanges récents et dans ce cas, c'est la loi de l'offre et la demande qui prône. Si vous souhaitez vendre vite, vous opterez donc pour un prix sans doute attractif et si vous n'êtes pas pressé, eh bien vous pourrez fixer un prix bien plus haut. Afin d'éviter le blocage en cas de vente, il est judicieux, si vous souhaitez investir, dans un portefeuille de plusieurs SCPI. Alors si l'une d'elles est illiquide, c'est-à-dire dont on ne peut pas se retirer à tout instant au moment de la vente, les autres ne le seront peut-être pas.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
De retour dans le Mac de l'Immo et nous allons découvrir l'immobilier fractionné. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien Bérénice, vous avez interviewé Adrien Sabi, le cofondateur et CEO de Blockshare.
Adrien Sabi, bonjour. Vous êtes le fondateur, le cofondateur et le CEO de Blockshare, Blockshare Immobilier. Alors, c'est l'immobilier fractionné. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Bonjour.
Bonjour Bérénice, merci beaucoup pour votre invitation. La société a été lancée en avril 2022, donc je suis le cofondateur de cette société. Alors nous, on fait ce qu'on appelle de l'immobilier fractionné. Concrètement, on permet à des clients d'investir à partir de 100 euros sur des projets immobiliers entièrement rénovés qu'on a au préalable sélectionnés. Et en contrepartie, nos clients reçoivent tous les mois une partie des revenus locatifs générés par le bien. On va porter l'opération, donc on va s'occuper de l'opération de la gestion du bien pendant toute la durée de vie du projet qui peut durer entre 5 ans et 10 ans. Et lorsque l'on va revendre le bien, on reverse également 90% de la plus-value potentielle à nos clients.
Du coup, vous récoltez d'abord l'argent sur une plateforme, c'est ça ? Et après, vous achetez le bien ?
Alors concrètement, nous, on travaille avec un réseau de marchands de biens qui nous propose des projets immobiliers qu'on va sélectionner. Une fois qu'on retient un projet en fonction à peu près d'une bonne vingtaine de critères qui sont importants pour nous, on va créer en fait une société filiale qui va faire l'acquisition du bien. Donc on va d'abord signer un compromis, bloquer en fait le bien. Nos clients ensuite vont financer l'acquisition de ce bien et c'est bien Blockshare qui va derrière acheter ce bien et qui va le gérer jusqu'à sa revente. Donc ça se passe dans cet ordre-là. On a 3 mois pour financer le bien sur notre plateforme. Si le financement n'atteint pas 100%, nos clients sont remboursés sous 24 heures sans aucun frais.
Vous parlez d'une performance qui va de 5 à 10%. Comment on arrive à 5 à 10% justement avec des loyers, des revenus ?
Alors, c'est tout l'intérêt en fait de la sélection de nos opérations. Nous, en fait, on travaille directement avec les marchands de biens, donc on enlève tous les intermédiaires, je pense notamment à des agents immobiliers qui pourraient nous amener les opérations ou à des plateformes qui pourraient aussi nous amener les opérations. Donc, on ne travaille pas avec ces opérateurs-là. Nous, on travaille vraiment avec les marchands de biens qui créent l'opération. Et c'est avec eux, si vous voulez, qu'on négocie directement le prix d'acquisition des biens. Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'on arrive, nous, à obtenir des rentabilités. Alors, aujourd'hui, on est plutôt en train de se rapprocher de 6,5% à 10% sur les opérations. On tend à augmenter un peu notre rendement puisqu'on le voit à 5%, on n'est pas assez compétitif. Donc on est plutôt entre 6,5% et 10% sur les projets qu'on propose.
Et du coup, sur quoi vous vous focalisez pour avoir une bonne renta ? C'est en fonction du lieu et c'est quel type de bail ?
Nous, on privilégie vraiment les locations traditionnelles classiques qui peuvent être du meublé ou du nu. Ça, d'accord, c'est vraiment ce qu'on privilégie. Évidemment, l'emplacement, donc nous, on va vraiment sur des secteurs très stratégiques où on a une croissance démographique et surtout on a une appréciation des prix de l'immobilier avec une forte résilience. Donc c'est souvent des secteurs qui peuvent être vers le Pays Basque, le Sud-Ouest, où en ce moment on a pas mal de projets qui sont proches de la Suisse, donc proches de Genève, et on le sait, c'est des secteurs qui sont très résilients, même en temps de crise.
Et donc en ce qui concerne maintenant la fiscalité, vous expliquez sur votre site que on paye pas, enfin on n'est pas taxé sur les revenus tant qu'on n'a pas atteint la somme qu'on a investie.
Exactement, Bérénice. C'est vraiment une des innovations de notre modèle, c'est un contrat de partage de revenus. Effectivement, il y a ce mécanisme fiscal qui fait que tant que vous n'avez pas, on ne vous a pas rendu quelque part la somme que vous avez investie au départ, c'est considéré comme un remboursement de votre investissement initial. Donc, ce n'est pas considéré comme des intérêts et donc il n'y a pas de fiscalité. Donc, dans notre modèle, si vous voulez, la fiscalité intervient lorsqu'on va revendre le bien, qu'on va vous rendre le capital investi au départ. Et donc, avec les revenus que vous avez perçus pendant la durée de l'opération, tout ce qui va dépasser votre mise initiale, c'est ça qui sera taxé. Et ça a une réelle incidence puisque entre avoir de la fiscalité pendant la durée de l'opération, comme on pourrait l'avoir avec des SCPI ou des revenus locatifs traditionnels, ou avoir cette fiscalité à la fin de l'opération, ben, au final, c'est pas tout à fait la même chose puisque ça permet de réinvestir tout de suite de manière beaucoup plus forte les revenus perçus pendant l'opération.
Est-ce que ce placement, c'est un placement, hein, vous l'avez dit, comporte des risques quand même pour les investisseurs?
Les deux risques dans notre modèle se situent voilà sur la vacance locative et une baisse de marché le jour de la revente.
Et alors, comment ça se passe si, par exemple, vous faites faillite?
Alors, c'est une question, Bérénice, qui est complètement légitime puisqu'on est une société qui a à peine 2 ans d'existence, hein, donc on nous la pose souvent. L'avantage de notre modèle, c'est que, étant donné qu'on crée une société par bien financé, on ne mélange pas les acquisitions, si demain Blockshare était amené à faire faillite, en fait, chaque société filiale en fait est autogérée puisque on opère avec un gestionnaire en fait qui s'occupe de la gestion de nos projets. Et si Blockshare était amené à faire faillite, en fait les sociétés continueraient de vivre au même titre que si vous avez vous un investissement locatif, ben vous le mettez en gestion et demain ben vous vous en occupez pas, c'est le gestionnaire qui va chercher un nouveau locataire, s'occuper du versement des loyers. Étant donné que notre solution est complètement automatisée, si vous voulez, nous il y aurait absolument aucune incidence si demain Blockshare était amené à faire faillite. Notre gestionnaire continuerait de gérer les biens et de reverser les loyers jusqu'à la revente du bien qui est définie en avance dans les contrats.
Eh bien, merci beaucoup Adrien Sabi. Donc c'est blockshare.co, c'est l'immobilier accessible pour tous. Merci beaucoup Adrien.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
Vous êtes bien sur Radio Immo en ce vendredi 12 avril. Dans quelques instants, la start-up Immo du jour. Mais tout de suite, on va aller vers Bérénice qui souhaite nous parler des piscines, puisqu'en effet, beaucoup de Français songent à en installer dans leur jardin.
Et oui, mais attention, celle-ci s'accompagne d'une fiscalité supplémentaire, puisqu'elle augmente la valeur locative qui sert de base à l'établissement des taxes foncières et d'habitation. Et qu'il existe une taxe piscine. Alors, cela vaut pour les piscines enterrées, forcément, les semi-enterrées, les piscines hors sol non démontables, hein, qui restent toute l'année, ainsi que toutes les piscines de plus de 10 mètres carrés demandant des travaux de maçonnerie. Toutes ces piscines sont soumises à l'imposition, quelle qu'en soit la structure.
Alors, Erwan, la taxe piscine pour plonger, à combien s'élève cette fiscalité?
Alors, en 2024, la taxe d'aménagement, appelée aussi taxe piscine, a augmenté, comme elle augmente chaque année. Elle est calculée à partir de la valeur forfaitaire fixée désormais à 258 euros par mètre carré de superficie de bassin, valeur à laquelle on applique le taux d'imposition pour chacune des parts communales, départementales et régionales uniquement pour l'Île-de-France. Alors la part communale, elle est en gros, elle va de 1 à 5%. La part départementale, elle est variable aussi, mais le maximum est à 2,5%. Le mieux, c'est que je vous donne un exemple. Imaginons qu'on on prend la piscine, on va dire qu'Erwan, vous installez dans votre jardin la piscine la plus courante, c'est la 8 mètres sur 4. Voilà, c'est ce qu'ont les Français en général. Oui, c'est pas mal, c'est une belle piscine.
Un bon début.
32 mètres carrés, donc vous multipliez 32 par 258, ça donne 8 256 euros. À ce prix-là, vous multipliez par les taux. Donc le taux communal, d'abord, j'ai pris le maximum 5%, ça fait 413 euros. Et départemental, j'ai pris le maximum aussi pour pas avoir de mauvaises surprises. Ça fait 206 euros. En revanche, on ne vit pas à Paris, donc il n'y a pas la taxe régionale. Voilà, les piscines, c'est mieux quand c'est en dehors de Paris. Et donc, ça fait un total de 619 euros. Il faut savoir qu'à cette taxe, donc ça c'est pour la taxe piscine, s'ajoute la taxe d'archéologie préventive. Là, vous allez me dire, ça sert à quoi ? Eh bien, ça contribue au financement de l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, l'INRAP, qui font d'ailleurs au passage un fabuleux travail. On les a reçus la semaine dernière lors de l'UNAM, lors du Forum de l'Aménagement Durable. Allez écouter l'interview. Et donc voilà. Et en fait, eux, ils font des fouilles archéologiques. Donc, il y a une petite taxe. Il faut savoir que son taux est de 0,40%. Donc là, par exemple, pour mon exemple, avec ma piscine de 32 mètres carrés, ça fait 26 €. Donc en gros, taxe piscine plus taxe archéologie préventive, en gros, ça fait 645 € à payer pour cette piscine.
Ces deux taxes ne sont payables qu'une seule fois dans les 90 jours à partir de la fin des travaux ?
Oui, tout à fait. On les paye pas chaque année, on les paye une fois, une fois que la piscine est finie. Vous avez 90 jours pour les payer. Et en revanche, après la construction de la piscine, le particulier verra sa taxe foncière augmenter et sa taxe d'habitation si c'est sa résidence secondaire, parce que je vous rappelle qu'il y a encore des taxes d'habitation pour les résidences secondaires. Mais en déclarant l'installation d'une piscine imposable dans les 90 jours suivant son achèvement, il est possible de bénéficier d'une exonération partielle de sa taxe foncière pendant les deux premières années suivant l'installation.
Et en cas de non-déclaration d'une piscine, est-ce qu'il y a des sanctions ?
Tout à fait. Un propriétaire qui ne déclare pas sa piscine peut avoir une amende qui va de 1200 à 6000 euros par mètre carré. Donc ça fait un peu cher. Ça peut aller jusqu'à 300 000 euros. Donc je vous conseille de la déclarer. Et puis, faut savoir que si votre piscine ne respecte pas les règles d'urbanisme, vous pouvez être contraint à la démolir. Et puis attention pour les petits malins qui essayent de frauder. Maintenant, il y a des contrôles qui sont faits avec des drones. Il y a des prises de vue qui sont faites par satellite. Il faut savoir qu'en 2022, c'est 20 000 piscines non déclarées qui ont été détectées, selon les chiffres de la Direction Générale des Finances Publiques. Et ça a quand même rapporté 10 millions d'euros aux communes. Et puis maintenant, concernant la demande de piscines, les Français, il faut savoir qu'ils aiment toujours autant les piscines individuelles. 40% des ménages ayant un terrain aimeraient avoir une piscine sur celui-ci. En revanche, la construction de piscines a chuté l'année dernière de 16%. Il y a deux causes qui ont été identifiées quand on interroge justement les Français. C'est d'abord la baisse du pouvoir d'achat, forcément, ainsi que la pénurie d'eau.
Le Mac de l'Imo, la start-up Imo, Jean-Michel Royot.
Et oui, de retour dans le Mac de l'Imo, et vous savez, c'est un rituel sur Radio Imo. Chaque vendredi matin, grâce à Jean-Michel Royot, on découvre une start-up Imo. Et cette semaine, c'est la start-up Urban Campus qu'on découvre avec son responsable du développement, Romain Crépel. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour à toutes et à tous ce matin, je suis absolument ravi d'accueillir Romain Crépel. Bonjour Romain.
Bonjour Jean-Michel.
Comment allez-vous ?
Écoute, très bien.
Bon, en pleine forme ?
Oui, il faut.
Bon, super, il a la pêche Romain, il va nous parler de sa belle start-up, Romain qui est DG d'une start-up qui s'appelle Urban Campus, c'est bien ça ?
Exactement, alors Urban Campus c'est une structure qui gère et qui conçoit au départ des immeubles innovants avec services. Alors on a commencé par le co-living et aujourd'hui on a à peu près une cinquantaine, 25 sur la France, 25 sur l'Espagne. Et on intervient dans le développement de produits gérés de tout type, aussi bien étudiants que co-living pour jeunes actifs, que logements familiaux avec services, aussi bien logements libres que logements abordables, et c'est un thème qui m'est cher, je pense que tu le sais, et aussi bien donc sur la France que sur l'Espagne, et on a des ambitions de développement ailleurs en Europe.
Ok, donc c'est effectivement très, très intéressant et forcément d'actualité, les problématiques de logement et quelle que soit d'ailleurs la tranche d'âge. Donc ce qu'on note, c'est que Urban Campus se positionne sur effectivement pas seulement les étudiants et les jeunes actifs, mais bien au-delà. On va te donner, Romain, une minute pour savoir comment ça marche. Donc tu pourras tout nous expliquer, depuis quand ça existe, qui sont les personnes qui pilotent Urban Campus, ou vos domaines d'intervention. On a noté France et Espagne, mais peut-être d'autres opportunités à travailler. Voilà, tout, on veut tout savoir, tout ce que tu veux nous raconter. C'est à toi, top chrono.
Alors en une minute, on a été créé donc en 2016 par trois cofondateurs qui sont toujours les trois membres du comité exécutif. Et donc moi, je suis le quatrième membre aujourd'hui. Les trois sont trois passionnés de l'immobilier et du monde du digital. Et c'est vraiment nos deux composantes principales de faire vivre une communauté de locataires, de clients. Et également, évidemment, la manière dont on travaille, c'est qu'on aide les promoteurs immobiliers à concevoir les opérations pour les optimiser, évidemment, financièrement, également en termes d'expérience client future. Et on fait porter les actifs par nos partenaires institutionnels financiers, aussi bien family office que asset manager ou que grands institutionnels du monde du logement. Et nous, ensuite, on exploite les immeubles, évidemment, pour leur procurer à l'un client final la meilleure expérience de vie possible dans un immeuble et à l'autre client investisseur, entre guillemets, le plus de rentabilité aussi possible. Et donc, notre métier est vraiment de concilier les deux.
Donc, c'est une forme de résidentiel qui se finance finalement facilement ?
Facilement. On en parlera après peut-être sur les temps actuels, mais en tout cas, c'est une des formes de résidentiel qui génère le plus de valeur, qui crée le plus de valeur aujourd'hui, et je pense que c'est pour ça que...
Donc on arrive à trouver de l'épargne qui investit du coup sur ce type d'actif.
On arrive à trouver de l'épargne qui investit sur le logement géré aujourd'hui parce qu'il est créateur de valeur,
et
clairement.
Et donc Urban Campus trouve des solutions logement à ces différents publics que tu citais.
Oui, exactement. Et en ayant un axe, je pense, vraiment fort, qui est vraiment l'économie du partage, où nos immeubles sont vraiment en service inclus. Et donc, par là, quelque part, on achète en commun, pour donner un exemple concret, on achète en commun le Wi-Fi qu'on va offrir du coup à nos résidents. Et forcément, ça coûte beaucoup moins cher d'acheter du Wi-Fi pour un immeuble entier que chacun paye son abonnement à 40 euros.
Et pour m'occuper de logement étudiant, je sais que le Wi-Fi, c'est presque plus important que le chauffage.
Exactement. Je pense que c'est vraiment le point majeur.
Un bon exemple. Et sur la typologie des immeubles, parce que des fois, en centre-ville, c'est des petits programmes qui sont proposés en co-living. C'est quoi le cahier des charges, si j'ose dire, d'Urban Campus?
Alors, on intervient donc plutôt sur les grandes métropoles françaises et espagnoles.
Donc, deux pays aujourd'hui?
Aujourd'hui, deux pays. On regarde le Portugal, on regarde régulièrement le Luxembourg, mais on est vraiment opérationnel sur deux pays. Et c'est là où on veut continuer de se développer pour le moment, évidemment. Plutôt en centre-ville, sur les immeubles de co-living pour jeunes actifs, parce que c'est là où il y a une attente forte, et plutôt en périphérie de ces grandes villes, sur le logement plutôt multifamily, qui est le logement du coup des familles, dans lequel évidemment on garde nos services, nos espaces communs et la même manière d'animer la communauté.
Ok, super, c'est super intéressant. Alors, est-ce que tu peux me donner quelques références de clients qui vous font confiance? Et évidemment, on cherche des figures, des noms.
Exactement. Alors, celui qui nous a fait le confiance en premier, entre guillemets, est Batipar, family office de la famille Ruggieri, qui a un véhicule d'investissement dédié au co-living pour jeunes actifs, dans lequel sont investisseurs Covea et Assurance du Crédit Mutuel, donc vraiment avec une stratégie de long terme, de conservation des actifs et de déploiement. Et on a conçu pour eux un certain nombre d'immeubles. Alors, au départ, plutôt en Espagne, parce qu'on a réussi à trouver rapidement des immeubles existants à réhabiliter, avec un droit du locataire qui est un peu plus souple en Espagne qu'en France. Et en France, on a plutôt travaillé sur des schémas de VEFA, évidemment, dont beaucoup vont être livrés cette année. Et donc là, on a une vraie ambition et un vrai challenge de louer ces immeubles.
De gestion, du coup.
De gestion,
exactement.
Gestion. Pour cette année-ci, et sur des immeubles qui ne sont pas que propriétés de Batipar. On va livrer un immeuble à Lille de 121 unités, pour les trois acteurs que j'ai cités précédemment, mais on va aussi ouvrir un immeuble à la frontière suisse, juste en face de Bâle, pour le compte de Swiss Life. On va ouvrir un immeuble à Marseille pour le compte de Primonial. Et un segment qui nous intéresse particulièrement en ce moment, c'est celui du logement intermédiaire. On a déjà travaillé par le passé et on a des chantiers en cours avec Inly pour créer du co-living à loyer abordable. Et on est en train de renouveler cette expérience-ci, notamment parce que la loi de finances a créé un régime de résidence-service en logement locatif intermédiaire. Et ça, là-dessus, je pense qu'on est vraiment leader sur ce sujet-là et on vient de signer des premiers actifs en région parisienne qui vont ouvrir cette année-ci. Et donc, on pourra avoir vraiment l'expérience
et
quelque
avec
part.
Avec qui, tu peux nous dire
non. On peut dire que c'est avec Inly, clairement.
Une maison qu'on connaît bien.
Exactement. Et qui est, elle aussi, leader sur son marché du logement intermédiaire.
Absolument.
Et la volonté là-dessus est vraiment d'être précurseur, d'offrir ce nouveau mode d'habiter pour les familles et puis demain pour, évidemment, les jeunes actifs et les étudiants. à tout le monde.
Dis-nous voilà. Un mot des services partagés. Alors, sur le Wi-Fi.
Il y a deux choses. On partage l'expérience et on partage l'immobilier. Sur l'immobilier, on partage des espaces en commun dans le co-living et dans le logement familial. On partage une salle de sport, on partage un espace de co-working, on partage un rooftop, on peut partager un potager qu'on va cultiver ensemble. On va avoir une laverie commune. On va avoir un espace un peu événementiel, un peu lounge, qui nous permet aussi de faire des événements. Une salle de jeu pour enfants, typiquement, quand on est dans des résidences familiales, ce qu'on a moins, évidemment, en co-living. Et sur la partie événementielle, on a tout un programme d'animation et des équipes de campus managers qui, elles, sont sur place et qui donnent envie aux locataires d'être en permanence partie prenante de cette communauté.
De passer du temps ensemble.
Exactement.
Parfait. Allez, on est très bavard ce matin. Pour conclure, comment on te contacte? Comment on contacte les équipes d'Urban Campus?
Alors, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn. Je pense que c'est quand même le moyen le plus simple. Romain Crépel. Et vous pouvez aussi trouver l'équipe.
Donc Crépel, C-R-E-P-E-L.
Exactement.
Et sinon, sur le site internet Urban Campus.
Et sinon, sur urbancampus.com.
Parfait. Merci Romain, c'était extrêmement éclairant. Au nom de Radio Immo, on souhaite aux équipes d'Urban Campus beaucoup de succès pour les prochaines campagnes et un bon développement. Et tout ce que tu nous as expliqué est évidemment très, très intéressant. Au plaisir de t'accueillir dans un an peut-être, pour que tu nous racontes comment l'année 2024 s'est extraordinairement bien développée. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci Romain, à très bientôt.
Merci Jean-Michel.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
Et oui, on est ensemble dans le Mac de l'Immo. La première partie se termine. Nos invités sont en train de s'installer en studio. Il s'agit de Valérie et Sophie Ingels, les Saving Sisters sur Instagram. Tiens, Erwan, est-ce que vous êtes abonné aux Saving Sisters sur Instagram? Mais il faut les suivre. Elles vous expliquent comment faire des bons investissements locatifs. Elles ont d'ailleurs, elles en ont fait pas mal. Et puis, elles ont une agence immobilière et un centre de formation d'ailleurs pour apprendre à investir dans l'immobilier.
Et moi qui vis dans le Cher, est-ce que vous pensez qu'elles peuvent me trouver un investissement locatif à hauteur de 1 euro?
Ah ben on va leur demander justement, on va leur demander ce qu'elles en pensent de cet investissement. C'est vrai que c'est une bonne idée. Et puis l'émission se termine. Vous allez faire quoi ce week-end, Erwan?
Eh bien écoutez, ce week-end je vais me reposer et peut-être retourner un petit peu chez mes parents pour préparer leur déménagement.
Ah, une bonne chose. C'est vrai qu'ils viennent d'acheter une belle maison.
Tout à fait. Je vais parler à mon père de la fameuse taxe piscine. Je verrai la tête qu'il fera.
Et oui, il faut pas oublier de la déclarer. Bon, dans quelques instants, donc on sera avec les Saving Sisters. Juste avant, il y a évidemment le Flash Info et puis leur musique, leur premier choix musical. Il s'agit de Billy Idol, Dancing With Myself. Oui, j'ai un super accent anglais. Allez, à tout de suite sur Radio Immo.
Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.